Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal. Et on commence avec les titres. L'Indonésie appuie l'assistance au renforcement des capacités au Myanmar. Le Parlement espère que le nouveau chef d'état-major de la force aérienne pourrait moderniser le principal système d'armement ou alutsista de l'Indonésie. B.J. Habibie rencontre le président Joko Widodo pour discuter de la tolérance. La Chine s'engage à accroître l'investissement. L'Indonésie peut augmenter la production de maïs, l'oignon et du riz en 2016. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Un conseiller du ministre des Affaires étrangères dans les relations institutionnelles, M. Salman Al-Farizi, a déclaré que l'aide de l'Indonésie donne au Myanmar était inclusive et complète. L'Indonésie est non seulement un groupe communautaire, mais aussi toutes les communautés dans l'état de Rakhine. L'Indonésie non seulement fournit de la nourriture et des vêtements, mais aussi les aides durables, comme le renforcement des capacités. Dans une conférence de presse tenue à Jakarta, mercredi 18 janvier, M. Salman Al-Farizi a déclaré, outre de construire les écoles et aussi fournir une aide au renforcement des capacités pour les enseignements, l'école indonésienne à Yangon sera un centre de développement des capacités pour les enseignants au Myanmar. Non seulement dans le domaine de l'éducation, l'aide au renforcement des capacités est aussi accordée au secteur de la santé et à la productivité économique.
Nah, di bidang kesehatan sekarang ini sudah ada tim advance yang akan mengkaji berbagai.
Dans le secteur de la santé, il existe maintenant une équipe de perfectionnement qui examinera différents besoins, y compris le traitement médical. L'assistance de l'Indonésie sera également accordée au renforcement des capacités dans le domaine de la productivité économique croissante, y compris l'utilisation des terres productives qui sont maintenant abandonnées à cause de conflits. Il devient une forme de réconciliation nationale à des groupes qui sont maintenant en conflit. Avec l'activité sociale et économique, ils seront capables de faire face à leurs besoins. Salman Al-Farizi a aussi expliqué que le ministère des Affaires étrangères facilitera également le dialogue pour le groupe communautaire dans l'état de Rakhine. Dans la même occasion, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Arman Atanasir, a déclaré que l'Indonésie fournissait également une aide au renforcement des capacités de la police au Myanmar. La police devrait être en mesure de travailler en ce qui concerne les droits de l'homme, parce que l'un des problèmes de crise à Rakhine est violation des droits de l'homme. Le président indonésien Joko Widodo a installé le nouveau chef d'état-major de l'armée aérienne, le maréchal Hadi Cahyanto, pour remplacer le maréchal Agus Supriyatna au palais d'État Jakarta mercredi. Répondant à l'installation, le vice-président du Parlement, M. Taufik Kurniawan, au bâtiment du Parlement à Jakarta, a déclaré mercredi que Hadi Cahyanto doit être en mesure de moderniser le système d'armement principal de l'Indonésie, de l'armée aérienne qui a été obsolète.
Ya, tantangan yang baru yang pasti kita melihat perlu ada revitalisasi alutsista, ya, angkatan udara kita.
Il y a un nouveau défi. Nous voyons qu'il faut une revitalisation vers le système d'armement de l'armée aérienne indonésienne. Les anciens avions doivent être modifiés avec une coopération avec la Commission 1 du Parlement. Nous espérons qu'il y aura une modernisation du système d'armement principal, surtout pour les avions de guerre. Un autre contenu de défi est du contexte stratégique du modèle. Taufik Kurniawan a déclaré que l'Indonésie devait être en mesure de faire face à tous les défis complexes à l'avenir. Donc, le chef d'état-major de l'armée aérienne, le maréchal Hadi Cahyanto, doit également être en mesure d'assurer la sécurité aérienne indonésienne. Le troisième président de la République d'Indonésie, M. Baharudin Yusuf Habibie, a rencontré le président Joko Widodo au palais présidentiel jeudi à Jakarta. Le président Joko Widodo a également reçu le sixième vice-président, M. Tri Sutrisno. Le ministre du secrétaire d'État, M. Pratikno, a déclaré qu'ils ont discuté du développement des conditions sociales dans ce pays, notamment le Pancasila, le pluralisme et la tolérance.
Tadi Pak Habibie memang sudah 3 bulan kan di luar negeri, lebih dari 3 bulan.
Monsieur Habibie était déjà 3 mois à l'étranger. Il a discuté avec le président Joko Widodo sur des conditions sociales en Indonésie, notamment sur Pancasila, le pluralisme et la tolérance. B.J. Habibie a également assuré le président Joko Widodo sur les modalités de la nation indonésienne dans le maintien de la tolérance. Les musulmans en Indonésie sont les musulmans tolérants. M. Habibie a assuré le président de notre force pour maintenir Bhinneka Tunggal Ika ou l'unité dans la diversité. Selon le secrétaire d'État, M. Pratikno, lors de la rencontre avec le président Joko Widodo, B.J. Habibie a donné des propositions sur la priorité au développement technologique dans le pays, notamment ceux qui ont une valeur ajoutée élevée. Concernant cette question, le président Joko Widodo a souhaité que l'industrie de développement de la technologie en Indonésie puisse contribuer à l'augmentation de la valeur ajoutée de l'économie et aussi puisse absorber la main-d'œuvre dans le pays, y compris ceux de la jeune génération. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le secrétaire général de la Chambre de commerce et de l'industrie de Chine en Indonésie, Liu Cheng, dans son communiqué de presse mercredi à Jakarta, a exprimé son optimisme que la coopération économique entre l'Indonésie et la Chine augmentera toujours. Liu Cheng a déclaré que l'Indonésie était un partenaire important pour la Chine dans l'établissement des relations bilatérales. Il a expliqué que l'Indonésie est un pays promoteur pour la Chine en raison des richesses et des potentiels de développement très rapides. Il a déclaré plus tard que les deux pays ont beaucoup de chambres pour ouvrir une coopération plus large. Nous sommes fermement à continuer d'investir en Indonésie parce qu'elle a un vaste marché riche de ressources et un potentiel de croissance rapide, lançant dans le domaine économique, de commerce et d'investissement. Liu Cheng a expliqué que la Chine était devenue la troisième source d'investissement étranger pour l'Indonésie et ouvert de larges possibilités d'emploi pour les Indonésiens. Il a également promis de fournir des consultations auprès des entreprises chinoises qui investissent en Indonésie et d'assurer que toutes les entreprises obéissent à l'ordre public en Indonésie. En 2016, le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture, a été en mesure d'augmenter la production de maïs, l'oignon et du riz. Cette production a dépassé l'objectif fixé. Il a été déclaré par le ministre de l'Agriculture, M. Amran Suleiman, lors de la réunion de travail avec la commission 4 du Parlement jeudi à Jakarta. Le ministre de l'Agriculture, M. Amran Sulaiman, a également déclaré que le gouvernement permettra d'optimiser la production nationale tout au long de 2017. Les objectifs qui seront atteints en 2017 sont 78 millions de tonnes de riz, 25 millions de tonnes de maïs, 1,2 million de tonnes de soja et 2,9 millions de tonnes de canne à sucre. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Chers amis, nous continuons notre émission avec le commentaire et un titre. L'OCI discute le destin des Rohingyas. L'Organisation de la coopération islamique OCI a organisé la réunion des ministres des Affaires étrangères à Kuala Lumpur, en Malaisie, le 19 janvier, afin de discuter les étapes à résoudre le problème des musulmans Rohingyas à Rakhine, Myanmar. À l'ouverture de la réunion, le premier ministre malais Najib Tun Razak a rappelé pour mettre fin à la violence contre l'ethnie Rohingya. Si pas arrêté, Najib était inquiet que les groupes radicaux comme ISIS peuvent affecter les Rohingyas. Tun Razak veut aussi l'OCI d'exhorter le Myanmar à cesser la violence à Rakhine contre les minorités. Le secrétaire général de l'OCI, Youssef Al-Outaymin, a exhorté le Myanmar à arrêter la discrimination et la violence systématique pour les Rohingyas. 65 000 Rohingyas ont évacué au cours des trois derniers mois pour demander une protection au Bangladesh. L'évacuation est venue après que les forces de sécurité de Myanmar, qui mènent des opérations de poursuivre les ASEAN en poste de police dans la frontière du Myanmar avec le Bangladesh en octobre 2016. L'autorité du Myanmar a blâmé l'attaque qui a tué 9 personnes a été menée par les militants Rohingyas. Dans cette opération, les forces de sécurité ont attaqué les Rohingyas et ont pris des mesures au-delà de ces obligations. Pour savoir ce qui se passe à Rakhine, l'un des résultats des discussions lors de la réunion de l'OCI à Kuala Lumpur est l'envoi d'une délégation au Myanmar. Selon le ministre malais des Affaires étrangères, une évaluation indépendante de la situation va aider le gouvernement du Myanmar, ce que une large publicité à propos de nouvelles sur Rakhine est vraie ou non. L'Indonésie, comme affirmait la ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi, veut partager l'expérience dans la résolution des problèmes au Myanmar avec l'OCI. En outre, l'Indonésie espère une coopération entre l'OCI et l'ASEAN. L'Indonésie elle-même donne directement l'aide à Rakhine. Nous sommes conscients que bien qu'assez longtemps, éventuellement, l'OCI donne une attention à Rohingyas. Nous espérons que l'attention des pays islamiques aux Rohingyas peuvent déplacer les autorités de Myanmar de ne pas laisser passer la violence à Rakhine. Enfin, nous espérons que l'aide de l'Indonésie soit par une aide directe ou par le biais de la diplomatie, puisse fournir une solution à la crise Rohingya. Chers amis, c'était le commentaire.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Ces auditeurs, voici notre programme quotidien aujourd'hui dans l'histoire de la Voix d'Indonésie, l'édition du 20 janvier. On va commencer le 20 janvier 1996. Arafat a été élu président de la Palestine. Yasser Arafat, le mouvement de libération de la Palestine et le leader de l'OLP, a été élu président palestinien lors d'une élection qui est tenue par un très limité en obtenant 88,1% des voix. Ainsi, Arafat a le pouvoir sur les deux petites régions de la terre de la Palestine, la bande de Gaza et la Cisjordanie. Les médias occidentaux se réfèrent à des événements tels que la première élection présidentielle démocratique pour le peuple palestinien. Pourtant, le fait demeure que plus de 2 millions de réfugiés en dehors de la zone occupée, qui constituent la majorité des Palestiniennes, ne sont pas autorisés à exercer leur droit de vote par le régime sioniste. Au sens du 20 janvier 1965, l'Indonésie s'est retirée du membre de l'Organisation des Nations Unies en raison l'ONU a reçu la Malaisie en tant que membre non permanent. L'Indonésie est officiellement devenue le 60e membre des Nations Unies le 28 septembre 1950. L'Indonésie a ensuite des Nations Unies en raison de l'accumulation de l'incapacité de l'ONU pour faire face à ses membres, un d'entre eux, le conflit Indonésie-Malaisie. En 1965, l'Indonésie est confrontée à la Fédération nationale de la Malaisie. La confrontation a commencé en 1962 et née de l'émergence du plan La Fédération de Malaisie. En 1961, qui se combinait Brunei, Sabah et Sarawak dans la Fédération de la Malaisie. Le plan est opposé au président de l'Indonésie, Sukarno. Le président Sukarno a fait valoir que la Malaisie était une marionnette britannique et que la consolidation de la Malaisie ne ferait qu'ajouter à le commentaire britannique dans la région. Nous terminons avec les événements du 20 janvier 2009. Barack Obama a prêté serment en tant que président de Grand 40e aux États-Unis. Barack Hussein Obama est le président de la 40e aux États-Unis. Obama a servi depuis 20 janvier 2009 en remplaçant de George W. Bush. Président Obama est le jeune sénateur de l'Illinois, puis a remporté l'élection présidentielle le 4 novembre 2008. En 2009, Obama a annoncé que le premier prix Nobel de la paix pour la promotion de la diplomatie internationale peut résoudre les problèmes de l'international. Obama est le premier afro-américain qui a servi en tant que président des États-Unis, dessiné par un parti politique américain majeur pour devenir président. Ses amis, c'était notre programme aujourd'hui dans l'histoire ce soir. À demain.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, encore merci de votre fidélité d'écouter la voix de l'Indonésie. Avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis de l'antenne, voici donc la mise au point ayant pour le titre « Les parties étrangères ne pouvaient pas avoir l'île en Indonésie ». La ministre indonésienne des Affaires maritimes et de la pêche, Susi Pujastuti, dans une conférence de presse mardi le 17 janvier 2017, comme cité par Republika, a affirmé « Les ressortissants étrangers ou entités juridiques étrangères ne peuvent pas avoir des droits de propriété sur les terres en Indonésie, y compris les droits de propriété sur toute l'île. » Ceci est en conformité avec la loi numéro 5-1980 sur agraire. Par conséquent, il enregistrera bientôt les droits de gestion des terres HPL 111 petites îles et les îles périphériques au nom de l'État fondé sur la loi numéro 1-2004 sur la trésorerie de l'État. Susi Pujastuti a confirmé qu'il avait enregistré les droits de gestion le plus tôt possible afin qu'il n'y ait aucune possibilité de l'île contrôlée par des étrangers ou par des individus. Selon elle, l'étape d'enregistrement des îles vise à garantir que la souveraineté nationale est maintenue. En outre, l'inscription de ces îles est également des actifs de l'État, de sorte que la richesse du pays a également augmenté. En outre, ceux-ci également demandé au ministère et aux organismes connexes de resserrer l'octroi de l'autorisation de l'emplacement sur les petites îles, à savoir en tenant compte la validité de la propriété d'île dans le but d'utiliser cette île. Selon elle, en conformant aux réglementations en vigueur, seulement 70% de la superficie de l'île qui peut être contrôlée par des entreprises privées ou individuelles, alors que les 30% restants appartenant à l'État. Cette règle est d'empêcher les petites îles contrôlées arbitrairement par toutes les parties. Ne soyez pas l'île contrôlée pleinement et est devenue les activités criminelles, la déforestation, la traite des personnes, la pêche illégale, la drogue et d'autres, a dit la ministre Soucy. En dehors de la question de certification, le ministère des Affaires maritimes et de la pêche a le projet d'inscrire 1106 petites îles à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture ou UNESCO en août 2017. À ce jour, le gouvernement vient de s'inscrire 13 466 îles à l'UNESCO. Pendant ce temps, le président de la commission 4 du Parlement, Eddy Prabowo, se félicite du ministère des Affaires maritimes et de la pêche qui feront les droits d'utilisation des terres aux 111 îles en Indonésie. Eddy a confirmé l'enregistrement, l'attribution des noms et la certification des îles en Indonésie était la bonne étape pour maintenir la souveraineté de l'Indonésie. D'autre part, le directeur du Centre d'études maritimes pour l'humanité, Abdul Halim à Jakarta, a également déclaré que la gestion des petites îles ne pouvait pas être donnée aux étrangers. Non seulement la question de la souveraineté, mais dans quelle mesure la population indonésienne peut bénéficier de cette gestion. Abdul Halim a dit d'autres pays comme le Japon, la France, la République populaire de Chine et le Danemark ne permettent pas la gestion des petites îles à des investisseurs étrangers. Au contraire, ils développent et gèrent les îles pour la prospérité de son peuple. Selon Abdul Halim, donner le droit aux étrangers à gérer l'île est une violation de la Constitution 1945. Chers amis, c'était la mise au point pour ce soir.
Un conseiller du ministre des Affaires étrangères dans les relations institutionnelles, M. Salman Al-Farizi, a déclaré que l'aide de l'Indonésie donne au Myanmar était inclusive et complète. L'Indonésie est non seulement un groupe communautaire, mais aussi toutes les communautés dans l'état de Rakhine. L'Indonésie non seulement fournit de la nourriture et des vêtements, mais aussi les aides durables, comme le renforcement des capacités. Dans une conférence de presse tenue à Jakarta, mercredi 18 janvier, M. Salman Al-Farizi a déclaré, outre de construire les écoles et aussi fournir une aide au renforcement des capacités pour les enseignements, l'école indonésienne à Yangon sera un centre de développement des capacités pour les enseignants au Myanmar. Non seulement dans le domaine de l'éducation, l'aide au renforcement des capacités est aussi accordée au secteur de la santé et à la productivité économique.
Nah, di bidang kesehatan sekarang ini sudah ada tim advance yang akan mengkaji berbagai.
Dans le secteur de la santé, il existe maintenant une équipe de perfectionnement qui examinera différents besoins, y compris le traitement médical. L'assistance de l'Indonésie sera également accordée au renforcement des capacités dans le domaine de la productivité économique croissante, y compris l'utilisation des terres productives qui sont maintenant abandonnées à cause de conflits. Il devient une forme de réconciliation nationale à des groupes qui sont maintenant en conflit. Avec l'activité sociale et économique, ils seront capables de faire face à leurs besoins. Salman Al-Farizi a aussi expliqué que le ministère des Affaires étrangères facilitera également le dialogue pour le groupe communautaire dans l'état de Rakhine. Dans la même occasion, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Arman Atanasir, a déclaré que l'Indonésie fournissait également une aide au renforcement des capacités de la police au Myanmar. La police devrait être en mesure de travailler en ce qui concerne les droits de l'homme, parce que l'un des problèmes de crise à Rakhine est violation des droits de l'homme. Le président indonésien Joko Widodo a installé le nouveau chef d'état-major de l'armée aérienne, le maréchal Hadi Cahyanto, pour remplacer le maréchal Agus Supriyatna au palais d'État Jakarta mercredi. Répondant à l'installation, le vice-président du Parlement, M. Taufik Kurniawan, au bâtiment du Parlement à Jakarta, a déclaré mercredi que Hadi Cahyanto doit être en mesure de moderniser le système d'armement principal de l'Indonésie, de l'armée aérienne qui a été obsolète.
Ya, tantangannya baru yang pasti kita melihat perlu ada revitalisasi alutsista, ya, angkatan udara kita.
Il y a un nouveau défi, nous voyons qu'il faut une revitalisation vers le système d'armement de l'armée aérienne indonésienne. Les anciens avions doivent être modifiés avec une coopération avec la Commission 1 du Parlement. Nous espérons qu'il y aura une modernisation du système d'armement principal, surtout pour les avions de guerre. Un autre contenu de défi est du contexte stratégique du modèle. Taufik Kurniawan a déclaré que l'Indonésie devait être en mesure de faire face à tous les défis complexes à l'avenir. Donc, le chef d'état-major de l'armée aérienne, le maréchal Hadi Cahyanto, doit également être en mesure d'assurer la sécurité aérienne indonésienne. Le troisième président de la République d'Indonésie, M. Baharudin Yusuf Habibie, a rencontré le président Joko Widodo au palais présidentiel jeudi à Jakarta. Le président Joko Widodo a également reçu le sixième vice-président, M. Tri Sutrisno. Le ministre du secrétaire d'État, M. Pratikno, a déclaré qu'ils ont discuté du développement des conditions sociales dans ce pays, notamment le Pancasila, le pluralisme et la tolérance.
Tadi Pak Habibie memang sudah 3 bulan kan di luar negeri, lebih dari 3 bulan
beliau. M. Habibie était déjà 3 mois à l'étranger. Il a discuté avec le président Joko Widodo sur des conditions sociales en Indonésie, notamment sur Pancasila, le pluralisme et la tolérance. B.J. Habibie a également assuré le président Joko Widodo sur les modalités de la nation indonésienne dans le maintien de la tolérance. Les musulmans en Indonésie sont les musulmans tolérants. M. Habibie a assuré le président de notre force pour maintenir Bhinneka Tunggal Ika ou l'unité dans la diversité. Selon le secrétaire d'État, M. Pratikno, lors de la rencontre avec le président Joko Widodo, B.J. Habibie a donné des propositions sur la priorité au développement technologique dans le pays, notamment ceux qui ont une valeur ajoutée élevée. Concernant cette question, le président Joko Widodo a souhaité que l'industrie de développement de la technologie en Indonésie puisse contribuer à l'augmentation de la valeur ajoutée de l'économie et aussi puisse absorber la main-d'œuvre dans le pays, y compris ceux de la jeune génération. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le secrétaire général de la Chambre de commerce et de l'industrie de Chine en Indonésie, Liu Cheng, dans son communiqué de presse mercredi à Jakarta, a exprimé son optimisme que la coopération économique entre l'Indonésie et la Chine augmentera toujours. Liu Cheng a déclaré que l'Indonésie était un partenaire important pour la Chine dans l'établissement des relations bilatérales. Il a expliqué que l'Indonésie est un pays promoteur pour la Chine en raison des richesses et des potentiels de développement très rapides. Il a déclaré plus tard que les deux pays ont beaucoup de chambres pour ouvrir une coopération plus large. Nous sommes fermement à continuer d'investir en Indonésie parce qu'elle a un vaste marché, riche de ressources et un potentiel de croissance rapide. La salle dans le domaine économique, de commerce et d'investissement. Liu Cheng a expliqué que la Chine était devenue la troisième source d'investissement étranger pour l'Indonésie et ouvert de larges possibilités d'emploi pour les Indonésiens. Il a également promis de fournir des consultations auprès des entreprises chinoises qui investissent en Indonésie et d'assurer que toutes les entreprises obéissent à l'ordre public en Indonésie. En 2016, le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture, a été en mesure d'augmenter la production de maïs, l'oignon et du riz. Cette production a dépassé l'objectif fixé. Il a été déclaré par le ministre de l'Agriculture, M. Amran Suleiman, lors de la réunion de travail avec la Commission 4 du Parlement jeudi à Jakarta. Le ministre de l'Agriculture, M. Amran Suleiman, a également déclaré que le gouvernement permettra d'optimiser la production nationale tout au long de 2017. Les objectifs qui seront atteints en 2017 sont 78 millions de tonnes de riz, 25 millions de tonnes de maïs, 1,2 millions de tonnes de soja et 2,9 millions de tonnes de canne à sucre. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine culturel et l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonjour chers auditeurs, est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le programme du magazine culturel. Un programme quotidien des culinaires, tourisme, art et culture de diverses régions à travers l'Indonésie. Aujourd'hui, nous vous invitons à voyager à Sumatra Nord, à visiter à la région de Tombak Sulu Sulu de Sumatra Nord. Bonne écoute. Ces auditeurs, Tombak Sulu Sulu se trouve au village Marbun, sous-district de Bakti Raja, la régence de Humbang Hasundutan, dans la province de Sumatra Nord, et considéré comme le lieu de naissance du roi Sisingamangaraja II, un héros national de l'Indonésie, et cible pour entrer dans le patrimoine culturel de l'Indonésie. Ministère de la Culture et du Tourisme de Sumatra Nord a également commencé le processus pour le programme et l'évaluation d'un certain nombre de sites archéologiques, y compris le Tombak Sulu Sulu comme le premier cible. Ce site mérite d'être du patrimoine culturel comme un signe des civilisations passées. En outre, il y a un certain nombre d'aspects en elle, a été lié à une variété de choses, y compris en termes de culture, l'histoire de la nation, comme on le voit à partir de Sisingamangaraja II ainsi que les aspects de la géoparc. Tombak Sulu Sulu est une petite forêt dans le sous-district Bakti Raja. La région de Bakara, la résidence de Humbang Hasundutan, le nord de Sumatra, Tombak en langage Batak, l'une des tribus dans le nord de Sumatra, ce qui signifie la forêt. Sulu Sulu signifie la torche. Cet endroit est appelé Tombak Sulu Sulu à cause des arbres luxuriants au milieu de la campagne et en elle, il y a un endroit que l'on croit être une cachette de la roi Sisingamangaraja. En outre, selon des histoires locales, c'est ici où la mère Sisingamangaraja I, Martongo, ou a prié à Ompu Mulajadina Bolon, ou le créateur, pour qu'elle ait donné un garçon. Son un miracle, elle a conçu et né avec le nom Ompu Raja Manghuntal ou Sisingamangaraja I. Basé sur cette croyance, cette fois, l'endroit est toujours visité par les gens, en particulier les familles qui veulent de la déchante. Selon l'histoire, beaucoup de gens qui ont réussi à obtenir la déchante après la visite et prié ici. Cette petite forêt sur une colline dans la roche de Negri Bakara a été envahie par différents types de plantes et d'arbres. L'un de l'autre, l'arbre de Hau Sankamadeha. Il y avait un lac qui s'appelle Aik Manuruk, mais maintenant il est sec. Au milieu de cette forêt, il y a une grotte de pierre formée à partir d'un gros rocher de krak. Cette grotte est un lieu de Parsemédian ou Martongo, demander des prières du roi de Sisinga Mangaraja. Ces auditeurs sur le district Bhaktiraja où la mise en place de Tombak Sulu Sulu et risque de sites culturels de Batak, en particulier ceux qui sont associés avec le roi de Batak, Sisinga Mangaraja. Autre que Tombak Sulu Sulu, il y a aussi le site de la dynastie de Sisinga Mangaraja qui existe encore aujourd'hui dans le village de Lumban Raja, allant des tombes, des bains et des palais ou maisons traditionnelles qui jusqu'à présent continuent à être traitées. Ce district Bhaktiraja est 22 km de Dolok Sanggul, la capitale de la régence de Humbang Hasundutan. Ce quartier peut être accédé environ 5 à 6 heures de la ville Medan, la capitale du nord de Sumatra. Visité à la région de Humbang Hasundutan, vous pouvez regarder le panorama du lac Toba qui peut être regardé à partir de toutes les directions de Bhaktiraja. Le gouvernement du district Humbang a également fourni le bateau de tourisme pour les voyageurs qui veulent de vouloir autour du lac Toba avec une vitesse de 40 nœuds. C'était le programme culturel La Voix d'Indonésie intitulé Visiter à Tombak Sulu Sulu à Sumatra Nord. Nous nous réunissons à nouveau demain avec un autre sujet intéressant. Merci de votre attention et au revoir. Sampai jumpa.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir, chers auditeurs et chers auditeurs de quatre coins du monde. Voici l'Indonésie en couleur pour ce soir et pour titre la culture de la boisson de kawo dans la région de Kerinci. Chers auditeurs, la terre de Kerinci dans la province de Jambi stocke des diverses culturelles uniques qui n'existent pas dans d'autres régions. L'une d'elles est la boisson traditionnelle des feuilles du café appelée kawo. Le café a été trouvé d'abord en Éthiopie, puis il a été développé au Moyen-Orient et est devenu une boisson royale européenne autrefois. Le café hier est venu pour la première fois en Indonésie et était porté par les Hollandais. L'une des régions indonésiennes est la résidence de Kerinci en province de Jambi qui est célébrée avec son produit de café. Le café Kerinci, notamment Robusta, a grandi sur la zone de plantation du peuple sur les hauteurs tropicales. La plantation de café se trouve sur les 1000 à 1500 mètres au-dessous du niveau de la mer. Le café hier est identique à ses fruits rouges et atteint 1,50 à 2 mètres de haut. Pendant la période coloniale, le goût agréable de café ne peut être apprécié par les agriculteurs Kerinci parce que toutes les récoltes ont été prises par les Néerlandais et vendu à l'Europe, mais les agriculteurs ont toujours moyen de profiter du café. Les jeunes feuilles de café considérées comme des déchets sont utilisées par les agriculteurs pour fabriquer du café. Les feuilles sont coupées en petits morceaux. Ensuite, ils sont mis sous le soleil jusqu'à ce que la couleur change en noir. Ensuite, ils sont mis dans l'eau bouillante. La population locale l'appelle café kawo ou extrait de feuilles de café. Boire l'extrait de feuilles de café devient une habitude pour les agriculteurs parce qu'il a différents types de saveurs et de goûts. Normalement, les agriculteurs ne boivent sans rien ajouter, mais certains agriculteurs y ajoutent de la cassonade. La chose unique est que les agriculteurs ont utilisé pour boire ce café sur la coquille de noix de coco appelée sayak. Pendant ce temps, le récipient d'eau est fait de bambou appelé tagé. Pour avoir une saveur maximale, l'extrait de cacao doit être mis dans le pot ouvert pour une nuit. Ainsi, la vapeur aura une synergie avec le cacao. Chers auditeurs, aujourd'hui, Kerinci n'est pas le seul endroit où vous pouvez profiter de cacao, parce que dans l'ouest de Sumatra et Lampung, ils boivent également la boisson de cacao. Payakumbu, dans l'ouest de Sumatra, la boisson de cacao devient une bonne offre d'affaires. Le restaurant et les propriétaires de café innovent cacao avec d'autres mélanges comme cannelle, du lait, du citron, du gingembre et d'autres. Les jeunes générations et les touristes aiment cette boisson traditionnelle et gagnent une nouvelle source pour les hommes d'affaires de cette boisson. Chers auditeurs, c'était l'Indonésie encore pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même fréquence. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Comme la fin de notre émission, voici le magazine musical.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, c'est la fille des amis dans le monde entier. Voici le magazine de Pelangi Nada ou magazine de musique, édition de vendredi avec moi, Muhammad Suartono. Dans cette rencontre, on vous présente une chanteuse de rythme de dangdut, Mirna Wati. Eh bien, chers amis, pour animer notre soirée, écoutez d'abord une chanson chantée par Mirna Wati intitulée « Untuk Siapa ?». Bonne écoute. Serzami Mirnawati est très connu aux années 1990. Son premier album, Deritan Hati, Crier du cœur, créé par Megizet, a du succès au marché et au public. Et vous savez, elle vient de la ville de Brebes, en province de Java Central. Et après, bien sûr, après son succès, Mirnawati a lancé son deuxième album en collaboration avec le compositeur très connu Yonki RM. Et vous savez, Yonki RM a beaucoup de succès, surtout pour ses compositions. Beaucoup de chanteurs dont le nom est flambé grâce à des chansons de Yonki, comme Hetikus Endang, Jamal Mirdad, Niki Ardila, Gusti Randa et Betaria Sonata, ainsi que Etri Jayanti. Pour cette fois, Yonki a la grande tentation pour créer des bonnes chansons pour Mirnawati. Bon, chers amis, avant de conclure notre rencontre avec Mirnawati, allez écouter encore une chanson de Mirnawati intitulée « Bukan Tak Mampu ». Bonne écoute.
Berdosakah bila aku kata
Serzami, Mirnawati, ayant la foi forte et intercédée, elle est capable de répondre à ce défi avec la sanction que la Kwan d'une façon parfaite. En conséquence, dans l'album de Kelakuan, Mirnawati a reçu le prix de HDX comme la meilleure chanson. Et il a été décerné comme album le plus vendu. Autre de chanson Kelakuan, il y a aussi une autre chanson qui est célèbre, Karang Cinta. Cette chanson est rechantée plusieurs fois avec des autres chanteurs et chanteuses. Bon, chers amis, c'était le magazine de musique édition de vendredi avec la chanteuse Mirnawati. Et avant de vous quitter, écoutez les deux dernières chansons intitulées Jeritan dan Kelakuan. Merci de votre fidélité et attention. Au revoir.
compléter notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.